elles ont en Libye, en Israël, en Irak, en Afghanistan, à 26 000, dans les Alpes, ou même à Saint-Étienne de Baïgorry, ou encore sur votre vélo entre Terre de Feu et les États-Unis. Vous vivez à Paris, et quelle coïncidence, non loin de la porte de la chapelle où se trouve le centre des réfugiés créé en 2016, malheureusement de nos jours totalement saturé. Vous êtes journaliste indépendant et collaborateur régulier de France Culture. Vous avez notamment réalisé en 2015 un documentaire intitulé « Passeurs, comment j'ai fait passer la frontière des réfugiés » et diffusé en 2016 sur LSD, la série documentaire. Et pour lequel vous avez d'ailleurs reçu plusieurs prix. Vous avez fait le récit de cette aventure humaine incroyable et déterminante dans un ouvrage intitulé « Passeurs » et également publié en 2017. Vous avez continué de suivre la trajectoire des réfugiés en Europe, de l'Aquarius, navire humanitaire en Méditerranée, à la Porte de la Chapelle, à Paris, ou dans les Alpes, ou encore à Saint-Étienne de Baïgorry. Nous avons écouté les 4 épisodes de LSD consacrés à cette question, et nous avons sélectionné quelques extraits qui nous ont particulièrement marqués et qui ont suscité des questions dans nos classes, ainsi que certainement dans le public.
Mais nous allons tout d'abord vous parler de votre parcours de journaliste. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier et à quel âge vous avez eu cette ambition?
Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, parce que la séance va se terminer à 14h15, je vais répondre assez vite aux questions, comme ça, ça donnera peut-être qu'il y a des questions qui émergeront du public. Quand est-ce que j'ai commencé à faire du journalisme à l'âge de 19 ans, je venais d'avoir mon bac et ça m'est arrivé tout à fait par hasard en fait, puisque je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. J'avais eu mon bac, mes parents étaient partis travailler à l'étranger, donc je vivais seul à Paris et je m'étais inscrit à la fac de droit et j'y suis resté 3 mois parce que ça ne me plaisait pas. Et comme j'étais seul, que mes parents étaient loin, je pouvais faire semblant d'aller à la fac. Et en fait, j'avais pas la fac. Je travaillais comme traducteur dans une société de communication et je traduisais de l'anglais au français des manuels d'imprimantes laser. Et là, par hasard, j'ai rencontré quelqu'un dont la tante était la secrétaire du service en langue anglaise de Radio France Internationale, laquelle allait se faire opérer et ils avaient besoin de la remplacer. Donc ils avaient besoin de quelqu'un d'anglophone qui puisse travailler sous un logiciel qui s'appelle MS-DOS, qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est ce que je savais faire. Et donc je suis rentré par hasard à la rédaction anglaise de RFI en 1994. Et ça m'a plu, et donc j'ai continué.
D'accord. Et vous prenez aussi des vidéos, vous réalisez des photos. Mais pourquoi pas alors choisir d'être journaliste radio?
Ben, le hasard a fait que je suis arrivé dans une rédaction d'une radio et que je m'y trouvais bien. Et que, en radio, on n'a pas forcément besoin d'écrire. Moi, la plupart des reportages que je fais, j'essaye de ne pas écrire, j'essaye de faire parler les gens. Et dans la mesure où je n'avais pas fait d'études, ou à l'âge de 19-20 ans, je ne savais pas peut-être très bien écrire. La radio était parfaite pour commencer le journalisme, puisque je n'avais pas besoin de savoir écrire. Et du coup, je suis resté en radio, et aujourd'hui, j'essaie d'écrire un petit peu.
D'accord.
C'est un média assez facile, la radio, finalement. Alors après, il faut avoir une aisance quand on parle le français, ne pas faire de fautes. Quiconque ne peut pas parler comme ça en improvisant dans un micro, comme vous le faites très bien.
Du coup, vous êtes aussi journaliste indépendant, mais pourquoi avoir choisi d'être indépendant?
Pourquoi avoir choisi d'être indépendant? C'est une question difficile. À force de faire des reportages en indépendant, c'est-à-dire en étant payé à la pige ou au cachet, c'est-à-dire gagner de l'argent seulement quand on produit un reportage, on s'habitue à la liberté et puis on s'habitue aussi à la précarité. Parce que moi, je ne sais jamais combien je vais gagner le mois prochain. Et donc, je suis toujours en train d'anticiper ce que je vais faire pour pouvoir payer mon loyer, m'occuper de ma famille, ou en tous les cas participer à la vie financière de la famille. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai du mal à m'imaginer avec un chef, avec quelqu'un qui me dit d'aller faire tel ou tel reportage, même si dans mon parcours, j'ai travaillé pour des personnes qui n'ont pas forcément été des chefs, mais qui ont été des maîtres ou des exemples pour moi.
Et votre métier vous semble quand même parfois difficile. Vous avez déjà songé à arrêter ou vous êtes accroché?
Oui, c'est difficile. Ce qui est difficile, c'est l'incertitude. Après, c'est comment dire, la liberté a un prix. En l'occurrence, c'est la précarité. La difficulté, c'est effectivement la précarité. Après, et là, je m'adresse particulièrement aux jeunes gens que vous êtes. C'est par l'inconfort de la vie, par les incertitudes du lendemain qu'on arrive à se dépasser dans des projets, qu'on arrive à faire des choses que les autres ne font peut-être pas, n'ont pas la chance de faire. Et donc la difficulté, c'est d'être toujours en éveil. Et donc parfois c'est fatigant. Il y a des fois, j'aimerais bien faire un métier être plus en sécurité, mais c'est tellement excitant de ne pas savoir ce qu'on va faire. C'est tellement excitant de se dire, là je viens de vivre une aventure, mais l'année prochaine, si ça se trouve, elle sera encore plus belle, plus grande. Et c'est pour ça que je vous incite à ne pas chercher forcément à trouver un emploi stable. Alors pour certains, c'est préférable, mais pour d'autres, c'est excitant aussi, l'incertitude.